J'ai, en présumant qu'au moins certaines sont là pour ça. Quoique on peut simplement passer une soirée agréable à bavarder ensemble. Évidemment, c'est un sujet qui est central, qui est délicat, qui a beaucoup de nuances, la question de la sexualité et la spiritualité. Et je veux en quelque sorte contraster plusieurs conceptions possibles de la sexualité pour mieux présenter la position bahaï. Une façon extrême de voir la sexualité, c'est de voir dans la sexualité humaine une sorte de défaut animal de l'homme. Bon, peut-être ça vous repousse qu'on parle dans ces termes-là, mais c'est essentiellement la position de l'Église catholique depuis 2000 ans. Enfin, si vous lisez les pères de l'Église, Saint Augustin et tout ça, ils disent carrément que la pulsion sexuelle est mauvaise en soi, que c'est animal. Enfin, la notion, c'est que l'homme est fait de deux choses, une âme qui est spirituelle et immortelle, et un corps. Et le corps, c'est ce qui est en commun avec l'animal. Donc, les choses qui viennent du corps sont maléfiques, enfin, ou potentiellement maléfiques, et la pulsion sexuelle étant la pulsion la plus forte du corps, que c'est le plus mal, si vous voulez. Donc, c'est animal, ça fait partie de la nature animale de l'homme, la nature basse de l'homme, si vous voulez. Et donc, la personne doit s'abstenir le plus possible, de toucher le moins possible à la sexualité. Donc cette conception tient que même dans le mariage, au sein du mariage, enfin, ils reconnaissent peut-être avec regret que c'est la façon que Dieu a prévue pour propager la race humaine. Mais néanmoins, je dirais un peu en caricature, mais c'est quand même pas loin, que ok, c'est une nécessité pour reproduire la race humaine, mais il faut en jouir le moins possible. Ok, il faut rendre ça le plus dégoûtant possible pour que, parce que c'est une nécessité, tout ça. Alors, donc, c'est vraiment une attitude qui qui démonise la pulsion sexuelle, qui voit dans la pulsion sexuelle une source de mal, une source de la bassesse de l'humanité, etc. Maintenant, il est évident que la perversion de la pulsion sexuelle peut mener les âmes à des choses horribles. Et puis, l'Église catholique, justement, est en train de souper de ça aujourd'hui. Donc, leur insistance sur le célibat des prêtres a justement créé des perversions, et on voit le résultat. Et ce qui, pour moi, a été très intéressant, ben, je ne veux pas déblatérer sur l'Église catholique, enfin, je tiens ça juste comme exemple. Mais j'écoutais hier un programme de Radio-Canada, d'une heure. C'était une entrevue avec, je ne sais pas, cinq ou six prêtres. Enfin, ils étaient une table ronde avec des prêtres autour de ce sujet de sexualité. Et puis l'intervieweur essayait de leur faire admettre, pour ainsi dire, assez poliment, enfin, mais il essayait de les faire admettre que du moins, certains de ces excès et des abus provenaient précisément de la vision qu'a l'Église catholique de la sexualité. Ils refusaient ça systématiquement. Ils disent non, non, le célibat, c'est un état, c'est un choix qu'on fait. Il y a bien des gens qui doivent vivre le célibat parce qu'ils n'ont pas de mari, pas de femme, etc. C'est un état normal, naturel, etc., etc. Ce qui était étrangement absent de ce discours, c'était toute la question de la famille. C'est-à-dire, il traite de la sexualité comme si c'était une drogue, qu'il fallait s'en abstenir. Et donc, il coupait, on voyait que leur vision de la sexualité coupait complètement la sexualité de la famille, de la relation entre l'homme et le mari et tout ça, tout ce qui découle naturellement de l'utilisation normale de la sexualité. Il y a évidemment l'autre extrême, vu, enfin je prends des extrêmes, on fait des gens qui vantent la sexualité comme enfin la voie vers le bonheur, la spiritualité, l'exaltation, tout ce que vous voulez, je me souviens par exemple qu'il y avait un médecin qui travaillait, un médecin occidental qui travaillait en Arabie Saoudite et qui finalement il a dit j'étais obligé de refuser de traiter des problèmes sexuels des hommes parce que tous les hommes venaient en se plaignant de l'impuissance. Et puis pour eux, l'impuissance, c'est s'ils étaient incapables d'avoir les rapports sexuels plus que 5 fois par jour, n'est-ce pas, en fait. Alors, donc, ça montre une certaine attitude à l'égard de la sexualité. Alors, on peut appeler ça l'indulgence sexuelle. Alors, bon, alors, comment trouver une vision saine dans tout ça? Alors d'abord, je pense qu'il faut voir la sexualité, comme c'est dit dans les écrits, comme un don de Dieu. C'est un don de Dieu, ça fait partie de la nature humaine. Il n'y a pas une partie maléfique de la nature humaine. Donc la foi bahaï rejette toute notion de péché originel ou toute notion qu'il y a des pulsions naturelles dans l'homme qui sont mauvaise en soi. Que ça soit le besoin de manger, le besoin de dormir, le sexe, n'importe quoi, n'est-ce pas? Toutes les pulsions naturelles de l'homme sont données par Dieu et sont naturelles et bonnes. Mais il y a un principe général qui régit toutes ces choses-là et c'est la modération. On voit que n'importe quoi, boire trop d'eau, n'est-ce pas, manger une nourriture trop riche, etc., n'importe quoi qui est bon en modération peut être mauvais si c'est porté à l'excès. Donc, ça nous donne au moins une clé de comprendre de ce qui pourrait être une attitude saine à l'égard de la sexualité. C'est-à-dire, d'abord, encore une fois, la première partie, c'est la notion que la sexualité est un don de Dieu. Et dans l'optique Baha'i, et le corps de l'homme et l'âme de l'homme viennent de Dieu. Ils ont chacun leur raison d'être. Le corps est le véhicule de l'âme pendant le passage terrestre. Et toutes les fonctions du corps sont données par Dieu. Ils sont légitimes. Et il s'agit, comme j'ai dit, simplement d'apprendre comment s'en servir de façon positive, c'est-à-dire de façon modérée. Donc, reste à définir quelle est la modération en ce qui concerne la sexualité. Quelle est la modération? Alors, au lieu d'engager un long discours théorique, j'aimerais approcher le sujet, en quelque sorte pas en arrière, c'est-à-dire en reculant, en disant, je m'excuse du symbolisme, c'est sans intention, simplement en disant la chose suivante. D'abord, je pense que tout le monde est d'accord que la fidélité dans le mariage est une chose positive. Même les gens qui font l'adultère, qui ont des affaires, etc., etc., sont quand même d'accord de dire que la fidélité est une bonne chose. Il n'y a personne qui pense que le mariage n'est pas rehaussé, n'est pas renforcé par la fidélité entre les époux. Comme j'ai dit, certainement les gens qui vivent la fidélité pensent ainsi, et même les gens, comme j'ai dit, qui n'arrivent pas ou qui même ne cherchent pas à vivre la fidélité, parce que j'ai parlé avec ces gens-là, enfin certains de ces gens, bien entendu, et puis ils ont tous d'accord, oui, oui, bien sûr, la fidélité dans le mariage, c'est meilleur, n'est-ce pas? Je ne suis pas capable de le vivre ou je n'ai pas agi de le vivre, mais je reconnais qu'un mariage avec fidélité va être mieux réussi, plus heureux que le mariage sans fidélité. Ça, c'est une proposition, donc, je pense que tout le monde peut accepter. Alors, ça, c'est d'abord la définition. Ça fait partie de la définition de la modération Bahá'í. C'est la fidélité dans le mariage. Maintenant vient la deuxième question. Alors, et avant le mariage? Et avant le mariage? Est-ce que le rapport sexuel en dehors du mariage, avant le mariage, c'est une chose qui peut entrer dans la modération? Le problème avec cela est tout simplement la chose suivante. Supposons qu'on dit OK, fidélité dans le mariage, mais vous pouvez faire toute l'expérimentation que vous voulez avant le mariage. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans ce cas-là? Personne ne va se marier. C'est-à-dire que le mariage serait donc une limitation à sa soi-disant liberté sexuelle. Et tout simplement, si on admet la liberté sexuelle avant le mariage, tout simplement, le résultat ultime de cette configuration, si tout le monde suit ça, serait que le mariage n'existe tout simplement plus, que la base de la famille va désintégrer, etc. Ce qui d'ailleurs se fait dans notre société aujourd'hui, à peu près. Enfin, bon. Donc, on pense par la simple logique de la chose que si on est d'accord que la fidélité dans le mariage est une chose positive, alors, ça mène fatalement, qu'on le veuille ou non, à la chasteté avant le mariage. Parce que si, sans la chasteté avant le mariage, si, dans ce cas-là, si on, comme je dis, si on se permet toutes les libertés avant le mariage, alors, tout simplement, les gens ne vont pas se marier. Et tout le sens de la famille, de fonder une famille, va perdre son sens. Alors donc, ça c'est la moralité de la sexualité qui est enseignée par Bahá'u'lláh. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver cette citation en français, parce que le livre, enfin, je ne trouvais pas le livre, mais je vais le lire en anglais et faire une traduction au pif. C'est pas long. The Baha'i faith recognizes the value of the sex impulse. La foi Baha'i reconnaît la valeur de la pulsion sexuelle, but condemns its illegitimate and improper expression. Mais la foi Baha'i condamne l'expression illégitime ou immorale, je dirais, de la sexualité. The proper use of the sex instinct is the natural right of every individual. Le déploiement ou l'usage approprié de l'instinct sexuel est le droit naturel de chaque individu. Donc ça, c'est très très loin de la vision catholique, n'est-ce pas? And it is precisely for this very purpose that the institution of marriage has been established. Et c'est précisément pour ce but que l'institution du mariage a été établi. The Baha'is do not believe in the suppression of the sex impulse, but in its regulation and control. Les Baha'is ne croient pas en la suppression de la pulsion sexuelle ou le refoulement de la pulsion sexuelle, mais dans sa régulation et sa contrôle, son contrôle, sa discipline, si vous voulez. La foi bahaïe, comme c'est clair là, reconnaît que la sexualité vient de Dieu et que l'usage, le déploiement, l'exercice de cet instinct est le droit naturel de chacun, et que Dieu, justement, a ordonné le mariage pour permettre à l'expression saine et naturelle qui, dans le cadre justement de la fidélité dans le mariage, produit des familles plus stables, un amour plus grand entre les deux époux. Maintenant, c'est évident qu'au niveau strictement biologique, la sexualité sert la propagation de la race. Mais la sexualité ne sert pas simplement à cela, parce que ça aussi, ça crée un lien particulier entre le mari et la femme, une sorte de, qu'est-ce qu'il faut dire, une sorte d'intimité, une sorte d'arbre de paix, qui crée une ambiance d'amour qui encadre les enfants. Donc, c'est pas simplement que la sexualité, c'est on a un repos sexuel, la femme tombe enceinte, elle a un bébé et puis ça finit là. La sexualité, l'amour et tout ça, l'affection entre l'homme et la femme, crée toute une ambiance qui nourrit les enfants. Donc, la sexualité, dans ce sens-là, fait partie de la spiritualité. C'est une expression de la spiritualité humaine, parce que qu'est-ce qui est une plus grande expression de la spiritualité humaine que le sacrifice que font les parents pour élever les enfants? Donc, la sexualité donc contribue de façon très active et très positive à la création d'une ambiance affective et positive et nourrissante pour l'homme et le mari et aussi pour l'enfant, pour les enfants, enfin, dans la famille. Donc il ne faut pas, à mon avis, il ne faut pas trop insister juste sur le côté excès sexuel. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens sont obsédés de cette question. Il est très difficile d'avoir une discussion vraiment rationnelle au sujet de la sexualité. Mais je pense qu'il faut plutôt voir l'aspect positif de la chose et voir que, comme Baha'u'llah lui-même a dit, qu'en suivant cette loi-là, les mariages seront plus heureux, plus stables, il y aura plus d'amour, plus de justice, etc., etc., dans les mariages. Donc c'est pour le bien-être spirituel que Baha'u'llah a donné cette loi. Mais je veux quand même parler un peu, parce que ça nous concerne tous, je veux quand même parler un peu de la question de la discipline sexuelle. Et ça, j'entre dans une réflexion un peu plus nuancée. Alors, si l'expression juste et adéquate de la pulsion sexuelle dans le mariage, dans la fidélité, tout ça, conduit au bonheur, si ça fait partie de l'usage de la sexualité, la chasteté, c'est-à-dire la discipline sexuelle, doit aussi avoir un effet positif. Alors là, on entre, comme j'ai dit, sur un terrain plus difficile, parce que il y a la notion qui court que la discipline sexuelle, je ne dis pas l'abstinence sexuelle, mais la discipline sexuelle et la chasteté avant le mariage créent des frustrations qui rendent les gens fous, qui sont impossibles, etc. et que ce n'est pas possible aux gens, et surtout aux hommes. Enfin, il a toujours eu un double standard, mais on ne s'attend pas que tout le monde, et surtout on ne s'attend pas à ce que les hommes soient nécessairement chastes avant le mariage, que la puissance sexuelle est trop forte pour être contrôlée une fois qu'on atteint la puberté. Alors, donc, la question que je veux poser est la suivante. Quel est ou quel pourrait être le sens positif de la discipline sexuelle? J'ai déjà parlé du sens positif de l'usage approprié de la sexualité dans la famille et tout ça. Mais qu'en est-il de la discipline sexuelle? D'abord, il faut voir que ce n'est pas simplement les hommes avant le mariage, par exemple, qui sont appelés à se discipliner sexuellement. Même un couple marié doit se discipliner sexuellement. Les époux se séparent, enfin, l'homme va en voyage, la femme va en voyage, etc. On ne peut pas. Si on dit que chaque fois qu'on a une pulsion sexuelle, il faut le satisfaire, eh bien, ça c'est évidemment immodération et c'est même impossible, n'est-ce pas? Donc, le fait est que tout le monde, qu'on le veuille ou non, est appelé à exercer un certain contrôle sur ses pulsions sexuelles, qu'il soit marié ou non, n'est-ce pas? Et toutes sortes de circonstances de vie peuvent faire aussi que la personne doit exercer ce contrôle. Alors, la réponse à cette interrogation, je pense, se trouve dans la conception bahaï du but de l'existence, du but de la vie. C'est-à-dire, on ne peut pas poser la question « quel est le but de la sexualité humaine ?» sans répondre aux plus grandes questions, quel est le but de la vie humaine, en premier instant, c'est-à-dire, quel est le but de tout le kit, de toute l'affaire de la vie. Alors, la réponse que donne la foi bahaï à cette question est la suivante. La foi bahaï dit que ce monde est une matrice pour l'autre monde. La foi bahaï nous dit la chose suivante. Exactement comme nous avons passé 9 mois dans le ventre de notre mère avant d'arriver dans ce monde. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait le passage dans la matrice de la mère? C'est là où nous avons acquis les yeux, les bras, un cerveau, etc. Toutes les choses nécessaires à la survie agréable, fonctionnelle dans cette vie. Donc, le développement que faisait l'enfant dans la matrice de sa mère ne servait pas principalement à ce moment-là. C'est-à-dire, il avait une bouche, mais il n'avait rien à manger. Il avait un tuyau dans l'estomac, n'est-ce pas? Il a des yeux, mais c'est complètement obscur. Il n'a rien à voir, n'est-ce pas? Il a des bras, mais il n'a rien à attraper, etc., etc. Donc, en fait, on voit que le développement de l'embryon dans la matrice de la mère était une préparation nécessaire à une vie fonctionnelle dans ce monde physique vers lequel l'enfant allait et dans lequel il est entré au moment de sa naissance. Alors, la foi bahaï dit, cette vie physique que nous avons est a exactement le même rapport avec la vie après la mort que le rapport entre la vie dans la matrice de la mère et cette vie. C'est une fameuse proportionnalité comme dans la mathématique. Okay? Autrement dit, ce monde est une matrice pour notre développement spirituel. Et qu'est-ce que c'est le développement spirituel? C'est les capacités de nos âmes. Et quelles sont ces capacités? Ce sont des capacités telles la connaissance, la conscience, le cœur, la capacité d'aimer, la volonté, la capacité d'agir, d'accomplir des bonnes œuvres, etc. Autrement dit, la spiritualité, ce n'est pas une vague chose, c'est le développement de nos capacités spirituelles, c'est-à-dire les capacités de nos âmes, et ces capacités sont ces capacités qui sont proprement humaines, la conscience, qui est unique à l'espèce humaine, l'intelligence, la capacité de compréhension, la capacité d'aimer, et la capacité, comme j'ai dit, d'agir et de maintenir une action. Donc, le but de notre existence dans ce monde, selon Baha'u'llah, c'est de développer de façon adéquate ces capacités spirituelles pour notre vie dans l'autre monde. Et Baha'u'llah dit que l'âme n'est pas composée d'éléments, que l'âme n'est pas donc un composé et n'est donc n'est pas sujette à la mort. Autrement dit, l'âme est immortelle, tandis que le corps, bien entendu, ne l'est pas. Donc, le corps est le véhicule de l'âme dans ce monde, mais un véhicule, c'est une chose qu'on utilise pour faire autre chose. Ma véhicule, enfin, c'est ce que j'utilise pour aller quelque part, n'est-ce pas, pour servir un but. Donc, le corps n'est pas la fin de ce monde, mais le but, le véhicule qui porte l'âme vers l'autre monde. Et donc, pour chacune de nos capacités, il y a une bonne façon de développer cette capacité et une mauvaise façon. Essentiellement, le choix est binaire. Enfin, le choix paraît beaucoup plus nuancé, mais en fait, c'est binaire. C'est-à-dire, soit on utilise notre intelligence pour trouver la vérité, ou soit on utilise notre intelligence pour des fins égoïstes. Ça peut être jouer aux échecs, jouer les jeux de loterie, on fait toutes sortes de trucs, ou apprendre, regarder la pornographie, on fait n'importe quoi, en fait, inventer les bombes, etc. C'est-à-dire, l'intelligence est une capacité flexible. On peut s'en servir de toutes sortes de façons. Mais la bonne façon, dit Baha'u'llah, c'est d'abord connaître Dieu et ensuite, cette connaissance de Dieu, il nous explique, nous donne la connaissance, la clé de la connaissance envers toute autre chose. Parce que, et ça c'est très important, selon Baha'u'llah, on comprend quelque chose seulement quand on comprend la relation entre cette chose et Dieu. Donc on comprend cette chaise, tu peux décrire, ben, cette chaise à quatre pattes, etc., c'est à telle et telle forme, c'est fait de métal et d'étoffe, etc., etc. Ça c'est un peu comme Aristote aurait dit, mais voilà, on définit la table qui n'a pas sa forme et sa substance, etc. Mais en fait, Baha'u'llah vient dire, mais tout ça, dès que vous n'avez pas compris le rapport entre cette chaise et Dieu, vous n'avez pas compris cette chaise. Donc, la connaissance de Dieu est la clé et la base de toute connaissance. Et cette connaissance nous mène vers la vérité scientifique aussi, la vérité scientifique, la vérité spirituelle. Même chose, la capacité de cœur, la capacité émotionnelle, affective de la personne peut être utilisée pour la haine, la vengeance, la jalousie, ou ça peut être aussi utilisé pour l'amour, pour l'encouragement des autres, etc., etc. C'est un choix qu'on fait. Encore une fois, il n'est pas naturellement donné qu'on aime tout le monde sans effort. Donc, il a un choix à faire. Et donc, encore une fois, cette capacité affective peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Finalement, il a la volonté qui peut être utilisée soit pour des bonnes œuvres, soit pour le service aux autres, pour servir les autres, ou, encore une fois, pour les fins égoïstes, comme la guerre, par exemple, on voit, ouvre la télévision, ça fait 6000 ans que les hommes font la guerre, ils le font encore aujourd'hui, ils se massacrent. Pourquoi? Ils ne savent même pas pourquoi. Pour une parcelle de terre, n'est-ce pas, de poussière, les hommes s'entremassacrent. Quelle stupidité! Mais les hommes le font. Ils le font. Et puis, bon, je laisse ça à la discussion, pourquoi ils le font, ça c'est toute une autre question. Ça rentre dans la question de recherche de pouvoir, de l'idéologie, ces choses-là. Mais tout ce que je veux constater dans ce moment, c'est le choix binaire, c'est-à-dire entre la bonne utilisation de la volonté et la mauvaise utilisation. Le pourquoi de ce choix, c'est un autre débat. Alors, maintenant, on vient à un point subtil. J'ai fait une analogie entre la vie qu'on avait dans la matrice de notre mère et cette vie. Mais il y a une différence fondamentale. Le développement qu'on avait dans la matrice de notre mère était involontaire. Ça ne dépendait pas de nos efforts. C'est la matrice de la mère qui donne l'ambiance qui pourvoit aux besoins de l'enfant, n'est-ce pas? Donc ce processus est automatique, c'est involontaire, ça ne dépend pas des efforts de l'enfant. Et si ça dépendait des efforts de l'enfant, ça serait une catastrophe, parce que l'enfant pourrait dire, mais voilà, j'ai un trouble dans l'estomac, j'ai tout ce qu'il me faut, pourquoi je dois développer une bouche, un système digestif et tout ça, pourquoi je dois pousser des bras, il n'y a rien à attraper, etc. Donc, c'est un processus involontaire. Mais c'est un processus qui se fait dans l'inconscience. Le bébé n'est pas conscient dans la matrice de sa mère. Il peut réagir au stimulus, ça je sais très bien, mais il n'est pas conscient. D'ailleurs, la conscience, comme nous savons, ça naît à peu près dans la première année et demie de vie, n'est-ce pas? Enfin, pensez à vos premiers souvenirs, n'est-ce pas? La première chose dont vous êtes conscient, et vous allez voir, ben, ça commence vers 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, au mieux, n'est-ce pas? Donc, le développement dans la matrice de la mère se fait dans l'inconscience. Tandis que la caractéristique principale de l'homme mature dans cette vie, c'est la conscience. Donc, le développement spirituel ne se fait pas dans l'inconscience. Et ça ne peut pas se faire dans l'inconscience. Ça, c'est la seule différence, mais c'est une grande différence. Donc, le développement spirituel n'est pas automatique. Ce n'est pas involontaire. Ça ne se fait pas dans l'inconscience. Ça se fait dans la volonté, dans la conscience, par l'effort soutenu, par la grâce de Dieu, bien entendu, mais aussi par la réponse que nous donnons à la grâce de Dieu. Vous savez, Shoghi Effendi, qui était le petit-petit-fils de Baha'u'llah, et qui était nommé gardien de la foi, avait dit la chose suivante. Il avait dit, aussi grand que peut être le déversement de grâce divine envers une personne, sans une réponse intelligente, personnelle et adéquate de la part de cette personne, cette grâce ne peut être d'aucun bienfait durable.
Répète ça.
Peu importe l'abondance de grâce à l'envers d'un individu, de la grâce divine envers l'individu, sans une réponse personnelle, donc ça ne dépend pas des autres réponses, c'est votre réponse, soutenue, donc un bon coup ne suffit pas,
Et intelligent.
Donc, ce n'est pas simplement la bonne volonté seule qui va faire. Il faut faire ça de façon intelligente.
Et soutenue.
Les soutenus, oui. Les soutenus. Donc, bien entendu, c'est grâce à la grâce de Dieu que nous pouvons réussir le développement spirituel. Mais pour notre bienfait, Dieu exige, et pour nous donner le bienfait de notre participation à notre propre devenir, Dieu nous donne, fait que le progrès spirituel dans ce monde nécessite un effort conscient de notre part. Un effort conscient et donc intelligent, il faut savoir comment faire et il faut avoir la volonté de le faire. Donc le manque de développement spirituel provient soit de l'ignorance, on ne sait pas comment faire, on fait mal, ou une mauvaise intention. On peut savoir, mais comme justement j'ai parlé de la fidélité dans le mariage, on peut bien savoir que ça vaut mieux être fidèle, mais ne pas être capable de le faire, n'est-ce pas? Ou ne pas avoir l'intention de le faire. Donc, le manque de développement spirituel ou le provient soit de l'ignorance ou soit de mauvaises intentions ou soit évidemment les deux. Donc, selon la foi Baha'i, ça c'est le but de l'existence de tout le monde. Nous sommes tous ici pour faire ce progrès spirituel. Alors justement, l'exercice de la volonté, de l'intelligence et de l'affectivité est impliqué fortement dans la discipline sexuelle. C'est-à-dire, si Dieu nous n'avait pas doté d'une sexualité aussi puissante, parce que la sexualité humaine est très forte, c'est extrêmement forte. Et la sexualité, je l'ai parlé en termes de relations sexuelles, mais nous savons très bien que l'art, la science ont fait que la sexualité, c'est la créativité. Penser à ce que serait la littérature, si on enlève toutes les histoires d'amour, etc., n'est-ce pas?
Il
ne reste plus grand-chose, ou la musique, etc., etc. Enfin, toute la poésie. Il est nul doute que la sexualité, c'est la créativité. C'est la créativité. Et donc, la discipline sexuelle rehausse la créativité. Mais, je dis donc, la sexualité humaine est très puissante. C'est très forte. C'est en quelque sorte la pulsion la plus forte que Dieu a donnée à l'homme. Alors, on pourrait se plaindre, on pourrait dire, mais voilà, c'est une sorte de truc que vous nous faites, Dieu. Vous nous dotez de cette sexualité et ensuite, vous demandez à ce qu'on contrôle l'usage ou on discipline l'usage de ça. Ça, c'est quand même un joke, n'est-ce pas? Ça, c'est un mauvais tour. Pourquoi nous avoir doté d'une telle sexualité sans nous donner la permission d'en jouir librement, enfin, comme on veut, enfin, etc., etc. Alors, la réponse à cette question se trouve dans ce but d'existence. C'est-à-dire, si on n'avait pas une forte sexualité, si le fait de la reproduction, c'était un fait de rien du tout, comme boire un verre d'eau, alors la discipline sexuelle n'aura pas aucune valeur spirituelle. C'est-à-dire, abstenir d'une chose qui n'est pas une tentation ne vous procure rien, n'est-ce pas? Donc c'est le fait, justement, de la force, de la puissance de la pulsion sexuelle. On peut le voir non comme une frustration et une malédiction, on peut le voir plutôt comme une occasion unique pour notre développement spirituel. Justement, bien sûr, parfois, la lutte est difficile. Tout le monde le reconnaît. Mais si... tu peux aller où tu veux, oui.
Ah, oui.
Oui, il a plus joli, des planchers, tout ce que tu veux. Oui.
Est-ce que je vais ouvrir la lumière pour
la... Ok. Alors, donc, voilà, je pense, une des clés, de toute façon, à la réponse à cette question. La puissance de la puissance sexuelle humaine est un don qui nous donne une occasion unique de notre développement spirituel. Parce que le fait même que cette discipline requiert un tel effort de notre part nous permet de développer nos capacités affectives, volontaires et intelligentes à un très très haut degré et à une vitesse beaucoup plus grande aussi, à une vitesse beaucoup plus grande. Alors, je pense que je vais m'arrêter là, mais nous pouvons discuter aussi longtemps que l'on veut. Et étant donné qu'on a une compagnie très agréable, moi je serai content que vous...